OK, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes ce soir au livre de Zacharie, dans la première partie, et comme on le fait d'habitude, on va examiner l'arrière-plan du livre, son but principal, le plan, et les thèmes majeurs du livre de Zacharie, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et aussi la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. Alors, on regarde le premier point, l'arrière-plan du livre de Zacharie. Lorsque le peuple de Dieu perd courage dans son service pour le Seigneur, on dispose de plusieurs moyens pour réveiller et stimuler son enthousiasme. Les responsables d'Église s'appuient généralement sur la réprimande, la censure et l'interpellation. Pour sa part, le Seigneur préfère rappeler aux siens combien il les aime afin de réchauffer leur cœur et de faire naître un nouveau zèle en eux. Le réveil du premier amour entraîne un nouvel élan dans l'œuvre de Dieu. Zacharie est le Barnabas de l'Ancien Testament, un vrai fils d'exhortation. Zacharie ranime le zèle du peuple de Dieu en annonçant la gloire à venir. Ses prophéties concerne la première et la seconde venue du Messie. La connaissance de l'avenir merveilleux qui attend les enfants de Dieu rend supportable l'adversité et les épreuves qu'ils traversent. On va parler maintenant de l'auteur. Zacharie se présente comme le fils de Bérékia, fils d'Ido, le prophète. Alors que l'historien Esdras l'appelle le fils d'Ido. Le père de Zacharie était Bérékia et son grand-père, Ido. Les Juifs avaient pour coutume d'appeler quelqu'un fils de l'un de ses ancêtres masculins et non seulement de son père immédiat, surtout s'il avait un ancêtre bien connu. Comme le prêtre et sacrificateur Ido était connu au sein de la communauté juive, Zacharie est appelé fils d'Ido. L'association des noms des trois hommes a une portée prophétique dans la vie de Zacharie. Bérékia signifie l'Éternel béni, Ido le temps fixé, et Zacharie l'Éternel se souvient. Zacharie est à la fois sacrificateur et prophète. Probablement né à Babylone, il entreprend comme âgé le long voyage vers Juda avec le contingent d'exilés conduit par Zorobabel en 538 avant Jésus-Christ. Collègue d'âgé, il est vraisemblablement le plus jeune des deux. Les prophéties de Zacharie qui nous sont rapportées s'échelonnent sur 3 ans, alors que celles d'âgé couvrent tout juste 3 mois et 24 jours. Maintenant, la date et le contexte historique. Zacharie commence son ministère prophétique juste 2 mois après âgé. Le contexte historique est le même pour les deux prophètes. On est en l'an 520 avant Jésus-Christ. 18 mois plus tôt, 50 000 Juifs sont revenus à Jérusalem. Les fondations du Temple ont été posées au cours des 2 premières années. Puis, le travail s'est interrompu suite à l'opposition des Samaritains, et depuis, rien n'a été entrepris sur le temple. L'Éternel a adressé un message au peuple par l'entremise du prophète âgé. 3 semaines plus tard, les travaux de reconstruction reprennent. 5 semaines plus tard, Zacharie se joint à âgé pour inciter le peuple à poursuivre l'œuvre de l'Éternel dans cette reconstruction. Zacharie figure parmi les grands prophètes. Il est un grand poète et un compagnon idéal pour âgé, homme plus direct et pragmatique. Le but principal du livre. Zacharie reçoit son premier message 2 mois après que le prophète âgé ait commencé à exhorter le peuple, quelques semaines après la reprise des travaux de reconstruction, pour confirmer et compléter le ministère de son collègue. Il veut secouer l'apathie de ses concitoyens, lutter contre le laxisme des prêtres, prévenir le découragement des laïcs, combattre le relâchement moral. La purification conditionne la bénédiction. Elle sera opérée par le Saint-Esprit. Chapitre 4, verset 6. Plus tard, il oriente les regards vers la venue de celui qui apportera la réalisation de tous les espoirs, et il élargit l'horizon étroit des Juifs aux dimensions de toute l'humanité. Comme tous les prophètes, il invite à la fois à la repentance et à l'espérance. Dans ce sens, son livre est, comme le disait Luther, la quintessence des prophètes. Troisième point, les thèmes majeurs, il y a celui de la reconstruction du temple du Seigneur, celui, le réconfort de Dieu et sa grâce envers Israël, la troisième, la venue du Messie et son futur royaume. À la page 4 et 5, ceux qui ont les notes, je vous ai mis deux plans, comme on le fait à l'habitude à la première leçon toujours, le plan du livre de Zacharie qui est succinct, donc c'est vraiment un petit plan avec les principales idées. C'est intéressant quand on veut étudier le livre, de relire ça et de se remettre ça à l'esprit. Et dans l'autre, à la page 5, on a le plan détaillé. Donc vous avez toujours un plan succinct et un plan détaillé. C'est extrêmement important si quelqu'un veut vraiment étudier le livre de Zacharie, de relire ces affaires-là avant, ça aide vraiment à mieux comprendre. Ça, c'est sûr et certain. Le cinquième point qu'on va regarder, les versets clés du livre de Zacharie. Il y a le fameux Zacharie 4:6. Alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole de que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. » dit l'Éternel des armées. C'est des versets qui reviennent souvent dans l'évangélisation pour montrer que, dans le fond, c'est l'Esprit qui travaille. C'est ce que je dis, un fameux verset, c'est parce qu'il est cité bien les endroits. Zacharie, chapitre 8, versets 7 et 8. « Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. » Le sixième point, on va regarder les leçons pour le peuple de Dieu. La première leçon, le pouvoir de Dieu à préserver son peuple. L'Éternel éprouve un amour ardent pour les siens. Dans le verset 14, il dit « Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. » Dans son zèle et son amour pour son peuple, l'Éternel pourvoit à tout ce qu'il lui faut pour observer ses commandements, comme le prouve la vision du chandelier d'or, au chapitre 4. Elle indique à la fois la responsabilité de l'Église et la source de sa puissance. Sa mission est de porter la lumière dans un monde d'obscurité. Le chandelier est en or massif, symbole de pureté, de valeur et d'indestructibilité. La lumière brille de différentes manières, comme le suggèrent les sept lampes et les sept conduits. Les deux oliviers fournissent toute l'huile nécessaire aux lampes et correspondent à la source de la grâce et de la force de l'Église, c'est-à-dire au Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui rassure constamment son peuple. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La vision communique le message que l'Église n'accomplira pas son œuvre dans le monde par une puissance humaine, mais par la force de Dieu. Comme le roi Ézéchias l'avait dit à propos d'un de ses ennemis, « Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » 2 Chroniques 32, 8. L'ange de l'Éternel donne l'interprétation de la vision du chandelier. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La seule puissance de Dieu suffit à préserver l'Église. Chaque enfant de Dieu est gardé par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Dès lors que Dieu a commencé une bonne œuvre dans la vie d'un individu, celui-ci a la certitude qu'il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Aucune puissance sur terre, ni en enfer, ne peut contrecarrer les desseins divins de préservation de chacun des rachetés de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas à redouter ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais à craindre plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Craignez Dieu, vous, ses saints, et vous n'aurez plus rien à redouter. Servez-le avec entrain, et vos besoins seront comblés. Deuxième leçon, c'est celui du grand réveil spirituel. Zacharie prolonge les prophéties de Michée 4.2 et de Ésaïe 2.3 et prédit un vaste retour à Dieu parmi les nations païennes. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Les nations seront saisies d'un ardent désir de se rendre à Jérusalem. Elles feront tout pour réaliser leurs vœux et être incluses dans la communauté d'Israël. La promesse faite à Abraham s'accomplira alors, car toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité, comme il avait été prédit, prophétisé dans Genèse, chapitre 12, verset 3. Les Juifs croyants associés aux non-Juifs croyants formeront le véritable Israël à travers lequel l'Éternel se fera connaître comme le Dieu de l'histoire du monde et celui de la prophétie. Ce sera l'Israël fidèle de l'époque néo-testamentaire. Septième point, la place et la présence de Jésus-Christ. Zacharie apporte quelques-unes des prophéties les plus remarquables de toute l'Écriture à propos du Seigneur Jésus-Christ, donc celui du Messie, le bâtisseur du Temple. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le Temple de l'Éternel. Il bâtira le Temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. Comme Zorobabel a reçu la promesse que ses mains achèveront la construction du temple de Jérusalem, il ne peut s'agir ici que d'un autre temple. Dieu promet que l'homme dont le nom est Germe, autrement dit le Messie, construira non un temple pour l'Éternel, mais le temple de l'Éternel. De plus, le Messie sera lui-même la gloire du nouveau temple et remplira les deux offices de roi et de sacrificateur. La fusion des deux offices dans la même personne était impossible sous l'ancienne alliance, puisque les sacrificateurs devaient descendre de Lévi et les rois de Juda. C'est pour cela que Dieu conçut un ordre sacerdotal supérieur à celui d'Aaron et de Lévi, l'ordre de Melchisédek, le roi sacrificateur. Le Messie appartient à cet ordre sacerdotal. Christ gouverne le nouveau temple, le temple de Dieu, en tant que roi et sacrificateur. Il est roi sur l'Église, qui est son corps. Il la gouverne, la contrôle et la garde. Il est sacrificateur pour son Église, ayant présenté le seul sacrifice suprême pour le péché, et vivant à jamais pour intercéder en notre faveur. Zacharie annonce que le Messie construira personnellement le temple de l'Éternel, le temple plus grand. Celui-ci est actuellement en cours de construction. C'est le temple spirituel dont Christ est le fondement, la pierre angulaire, le centre et le cœur. Les croyants en sont les pierres vivantes qui viennent à Christ pour former une maison spirituelle. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Avec Christ et en lui, il constitue le vrai temple. Christ et son Église forment le vrai temple, le temple spirituel. La venue du germe, le serviteur de Dieu, s'accompagne de l'enlèvement de l'iniquité. C'est l'annonce remarquable de l'œuvre de Christ au calvaire. On a aussi le Messie, le roi humble, qui est annoncé dans Zacharie. Dans le chapitre 9, verset 9, ça dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, petit d'une ânesse. » Les Juifs ont toujours considéré ce passage comme s'appliquant au Messie promis, jusqu'à ce que les chrétiens l'attribuent à Jésus-Christ. Le prophète décrit le roi Messie comme quelqu'un de juste, détenteur du salut, humble, pauvre extérieurement, chevauchant un homme dont le royaume se caractérise par la paix et une étendue universelle. Le Seigneur Jésus-Christ accomplit délibérément cette prophétie lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Autre idée, celui du Messie qui a été percé, qui est annoncé dans Zacharie. Peu après que le Seigneur eut rendu son dernier souffle sur la croix, des soldats vinrent avec l'ordre de briser les membres des crucifiés. Ils brisèrent ceux des deux brigands, crucifiés de part et d'autre du Seigneur. Le Sauveur échappa à ce supplice barbare, car les soldats virent qu'il était déjà mort. Mais l'un d'entre eux voulut s'en assurer en enfonçant sa lance dans le côté de Jésus. Il en eut ainsi la confirmation. Cette curieuse séquence d'événements servit une fois de plus l'accomplissement de la prophétie. L'apôtre Jean y voit la réalisation de deux prédictions de l'Ancien Testament. D'après l'une, aucun de ses os ne sera brisé. L'autre se réfère au fait que l'Éternel a été percé. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Comme c'est Dieu qui parle ici, ce passage a toujours été une pierre d'achoppement pour les Juifs. En effet, comment Dieu peut-il être percé? Le seul fait qu'il l'explique et qu'il refuse d'admettre est qu'ils ont crucifié et tué le prince de la paix, qui n'était autre que Dieu manifesté en chair. À partir du moment où ils acceptent ce fait, le passage devient cohérent. Ils se lamenteront alors sur la culpabilité de leur père qui ont crucifié le Fils de Dieu incarné et sur leur propre culpabilité de l'avoir si longtemps rejeté. La prophétie de Zacharie annonce aussi un grand réveil spirituel parmi le peuple d'Israël. Lors de ce grand réveil à venir, la repentance et la prière joueront un rôle considérable. L'autre idée, celui du Messie qui a été trahi. Lors de la crucifixion, les principaux sacrificateurs et les anciens firent-ils le rapprochement entre Zacharie 11, versets 12 et 13, et le montant de 30 pièces d'argent qu'ils donnèrent à Judas et avec lesquels ils achetèrent ensuite le champ du potier. Je leur dis, « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Dans Matthieu 27, on dit, « Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. » Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Ces deux passages présentent des parallèles saisissants. Premièrement, ni l'œuvre du Seigneur Jésus, ni celle de Zacharie ne furent estimées à leur juste valeur. Deuxièmement, la somme de 30 pièces représente un montant insignifiant, aussi bien comme salaire d'un berger que comme prix d'une trahison. L'expression « prix magnifique » est ironique. Troisièmement, dans les deux cas, les pièces furent jetées dans le temple. Quatrièmement, dans les deux cas, les pièces finirent chez un potier. Le Messie, maintenant un berger frappé. Au début de Zacharie 13, l'Éternel promet l'ouverture d'une source à laquelle les Israélites pourront venir laver leurs péchés et leur impureté morale. Les souffrances et la mort du Seigneur Jésus-Christ constituent le lien entre cette source qui purifie, le côté percé de l'Éternel, et les coups portés sur le berger et le compagnon de l'Éternel. La nuit précédant sa mort, le Seigneur se rendit avec ses disciples au mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani. En route, il prédit leur défaillance et leur chute, et il cita Zacharie, chapitre 13, verset 7, à l'appui de ses paroles. « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Le sens de Zacharie 13, versets 7 à 9 est donc clair. D'abord, le Messie mourra pour les péchés de son peuple. Ensuite, la nature même de sa mort sera une occasion de chute pour ses disciples. Enfin, le salut du reste fidèle passera par les difficultés et les épreuves. C'est Dieu le Père qui frappe le berger. Dans toute l'étendue du savoir humain, rien n'est plus sublime que ce schisme apparent au sein de la divinité. C'est comme si le péché était un mal si horrible que son endossement par un médiateur sans péché rendait nécessaire pour un temps une division dans l'unité absolue de la divinité elle-même. C'est l'illustration la plus tragique de toute l'histoire de l'univers du pouvoir répulsif et séparateur du péché. Et ensuite, on a le Messie et la robe de justice. Dans la quatrième vision de Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5, le souverain sacrificateur Josué se tient devant l'ange de l'Éternel. Un puissant symbolisme sert à démontrer qu'il a été sauvé de l'enfer par l'expression « un tison arraché du feu » du verset 2. Lavé de ses péchés, ôtez-lui les vêtements sales, verset 4, et revêtu de la justice de Christ, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Verset 4. Cette merveilleuse transaction s'opère sur le fondement d'une déclaration d'Éternel, « J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Quelques applications. Le livre de Zacharie est riche d'enseignements. Il démontre que les ennemis du peuple de Dieu seront tous jugés par le Seigneur. Mais il le fera à sa manière et en son temps. N'oublions jamais cela dans nos observations de la scène politique et religieuse de notre époque. Deuxièmement, Zacharie insiste aussi beaucoup sur la nécessité de l'obéissance et de la repentance pour le peuple de Dieu. Étudions-le en implorant le Seigneur de nous faire retenir les principes d'enseignement moral qu'il contient et la force nécessaire de les appliquer quotidiennement dans nos vies pour obtenir sa bénédiction. Troisième application, le livre de Zacharie est le plus long et peut-être le plus difficile de tous les petits prophètes. Les chapitres 9 à 14 contiennent une série de prophéties très précises au sujet du Messie. Son entrée à Jérusalem sur un ânon, la trahison de Judas qui le vendra pour 30 pièces d'argent, le rejet du bon berger, l'arrestation de Jésus et la dispersion des disciples, son côté percé, son retour en gloire avec ses saints. En l'étudiant, nous honorons notre Sauveur Jésus-Christ. Quatrième et dernière application, nous pouvons juger de son importance par le fait qu'il soit le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament après Ésaïe. 71 citations, dont 27 dans les Évangiles et 31 dans l'Apocalypse. On l'a appelé l'Ésaïe du retour de l'exil et son livre, l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Méditons-le. Rendons gloire à notre grand Dieu pour sa toute-puissance, sa miséricorde, sa vérité et son amour ineffable envers son peuple. Amen.